On peut appeler ça d'hypocrite ou de conviction, décider comment vous appelez ça. Mais les députés de Québec solidaire hier ont décidé de, dans le fond, d'être assermentés derrière des portes closes pour que personne puisse voir, sauf le secrétaire général de l'Assemblée nationale, que personne puisse voir le fait qu'il prête allégeance à la reine. Parce que au Québec, lorsqu'on est assermenté pour devenir député, pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, donc voter des lois, ben, il faut être assermenté, il faut prêter serment. Puis au Québec, il y a deux façons de le faire. On le prête serment en prêtant allégeance ou en prêtant allégeance à la reine, mais aussi en faisant preuve de loyauté envers le peuple du Québec. Ils sont mal à l'aise. Québec solidaire, les députés de Québec solidaire sont mal à l'aise avec la question de la reine, ont décidé de faire ça derrière des portes closes, puis ensuite ils ont fait une genre de célébration en public. Comment ça se fait qu'on fait ça encore au Québec? Comment ça se fait que la reine est impliquée dans nos affaires au Québec, puis qu'on doit prêter allégeance à la reine pour être capable de siéger comme député? C'est une question que plusieurs se posent. Est-ce qu'on serait capable de s'en départir de cette obligation-là? Eh bien, on va voir. Et pour en parler, c'est avec plaisir que je vais aller rejoindre le professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour, M. Taillon.
Bonjour.
Ben, merci d'être là. C'est gentil. On va tenter de bénéficier de votre lanterne pour mieux comprendre d'où ça vient, cette affaire-là, qu'on doit prêter serment ou allégeance à la reine lorsqu'on veut être assermenté député.
Ouais. Ben, en vérité, on est dans un système un petit peu qui repose sur une espèce d'hypocrisie, hein. La reine, elle est institutionnellement partout. La couronne est partout dans notre système, mais en même temps, elle est un peu devenue symbolique. Elle s'est effacée. Alors, il y a toutes sortes de réformes qu'on a fait pour marquer cet effacement, notamment. On a aboli la deuxième chambre au Québec, même si ça portait atteinte au pouvoir de la couronne de nommer les membres de cette chambre-là. Et ça, on le fait sans modifier la Constitution. Dans les lois du Québec, on a remplacé partout le mot couronne par le mot État. On n'a pas fait l'équivalent au fédéral, mais ce sont des gestes qui sont posés, mais la réalité institutionnelle, elle demeure. C'est-à-dire qu'en bout de ligne, les lois, ça peut sembler absurde, là, mais les lois sont le fait de la couronne. Donc, une loi ne peut pas être adoptée sans la sanction royale.
Voilà, ouais.
Et au fond, c'est le même système là qui date là de plusieurs siècles et au fond les chambres ne sont là que pour donner un avis favorable à une loi qui doit être sanctionnée par le souverain. Donc ça c'est en théorie, mais en pratique c'est tout autre. La couronne en vertu des usages, des conventions constitutionnelles, donc c'est des pratiques politiques qui se cristallisent sous forme on peut dire d'obligation politique, là, ben, au fond, maintenant, la couronne, donc ses représentants, le GG, le LG, agissent toujours sur recommandation des élus du peuple. Donc, il y a une espèce de double standard.
Ouais.
Politiquement, c'est les élus qui décident, ils font ce qu'ils veulent, mais disons que juridiquement, la reine et la couronne et ses représentants occupent une place immense dans notre système.
D'où tout ça part, c'est-à-dire qu'on doit prêter serment ou allégeance à la reine. Alors,
oui.
Ça, c'est maintenu, c'est une obligation, on ne pourrait pas faire sans.
Oui, elle est prévue dans la Constitution de 1867, mais dans cette Constitution-là, il y a des choses qui... Tout peut être modifié. Mais il y a des choses qui peuvent être modifiées par simple loi provinciale, puis d'autres questions qui nécessitent l'accord du fédéral puis d'un certain nombre de provinces. Dans la Constitution de 82, on dit que désormais, tout ce qui touche à la reine, à ses représentants, le GG puis le LG, à la charge. Donc, qu'est-ce que la charge? Ben, c'est probablement les principaux pouvoirs, c'est probablement l'existence de ces postes-là. Les règles qui permettent de savoir qui peut devenir GG, LG, qui peut devenir reine, ça c'est probablement protégé, mais on ne sait pas jusqu'à quel point cette partie de la Constitution-là est blindée. Je vous donne un exemple. Lorsque dans les années 60, le Québec a aboli son Sénat, son conseil législatif, on l'appelait comme ça, mais au fond, c'était l'équivalent du Sénat à Ottawa, ben, ça enlevait des pouvoirs à la couronne, parce que c'est la couronne qui nommait tous les membres de cette assemblée. Et malgré tout, une fois placé devant un fait accompli, quand ça a été contesté devant les tribunaux ont dit, ça enlève pas un pouvoir fondamental ou essentiel de la couronne, fait que ça passe. Le Québec pouvait faire ça par simple loi. Mais on a un peu le même problème avec le serment. On a un article qui dit le serment doit être prêté. Voici son texte, le texte est prévu en annexe. Donc, c'est une obligation constitutionnelle. Mais est-ce que ça entre dans ces obligations que le Québec pourrait changer lui-même par simple loi, ou s'il faudrait demander la permission au fédéral puis à toutes les provinces? Là, il y a sûrement place à interprétation puis à des débats, mais si le Québec voulait oser, je crois qu'il pourrait le faire, puis après, il faudrait construire l'argumentaire pour le défendre devant les tribunaux.
Mais on risquerait de rendre invalides des lois votées par des gens qui n'auraient pas prêté serment?
Oui, ce serait... Bon, allons-y avec cette hypothèse. Donc, le Québec solidaire propose une loi pour abolir le serment. Admettons qu'elle est adoptée, que l'Assemblée nationale vote pour et qu'elle est ensuite sanctionnée par la couronne elle-même, par le LG. Mais là, lui, il n'aurait pas le choix. Il n'aurait pas le choix de sanctionner parce qu'en vertu des usages, il doit faire ce que les élus du peuple lui disent de faire. Donc, par la suite, peut-être que quelqu'un pourrait dire, la loi en vertu de laquelle on cherche à me condamner est une loi qui est inconstitutionnelle parce que les députés qui l'ont votée n'avaient pas prêté le serment. Donc, ça pourrait être un argument qui serait soulevé dans à peu près n'importe quel dossier. Et ça monterait devant les tribunaux. Dans une situation comme celle-là, moi, je pense que le Québec pourrait avoir de sérieux arguments pour dire non, on avait le droit de faire ça.
Ouais.
Mais allons dans l'hypothèse où non, les tribunaux diraient vos lois sont invalides parce qu'elles ont été adoptées par des gens qui n'avaient pas prêté serment. Il y a d'autres exemples de ce type où les tribunaux, quand ils ont invalidé plusieurs lois, puis ça peut créer une espèce de chaos, je pense à une affaire sur les droits linguistiques dans les années 80, pourrait tout à fait dire, oui, les lois sont invalides, mais on va vous laisser un délai pour les réadopter, histoire de pas créer un vide juridique immense, là, puis un chaos.
L'autre option, c'est d'aller en renvoi.
Oui, effectivement. Bon, un renvoi pour situer un peu tout le monde, c'est un processus inversé. Au lieu d'attendre une contestation qui est faite par des citoyens ou des entreprises, peu importe, le gouvernement pose lui-même la question. Il prend pas de chance, il attend pas, il dit « je voudrais avoir l'avis de la Cour sur cette question-là ». Il n'y a rien qui empêche de se lancer là-dedans. Mais là, il faut se rappeler que Québec solidaire n'est pas au pouvoir. Donc,
c'est ça.
Dans ces circonstances-là, il faudrait que ça devienne... Seul le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral pourrait, dans ce cas-là, saisir. Les députés de Québec solidaire n'ont pas cette possibilité-là. Pour le moment, eux, je pense qu'il y a beaucoup de positionnement. Ils veulent montrer certaines valeurs, certains principes politiques qu'ils cherchent à défendre. Fait qu'il y a beaucoup de positionnement là-dedans. Ils vont y aller avec un projet de loi pour forcer les autres à dire qu'est-ce que vous pensez de notre positionnement. Je serais surpris que ça aille beaucoup plus loin pour le moment.
Un beau débat qui revient souvent, puis merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes, comme je le disais. Merci, professeur Taillon.
Merci beaucoup, à bientôt.
OK, au revoir. Alors, Patrick Taillon, c'est intéressant, hein? Il est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Vous savez, c'est peut-être théorique pour plusieurs, là, puis on s'obstine sur des virgules, puis des détails dans le tapis, là. Des fleurs dans le tapis, mais pas vraiment. Québec solidaire a décidé de faire un coup d'éclat en privant ses députés de pouvoir prêter serment devant leur famille, devant les médias, devant la population en général. Alors, comme groupe parlementaire, on a décidé de faire ça dans un garde-robe. Symboliquement, pour le député, c'est dommage. Symboliquement, pour le groupe parlementaire, c'est quand même réussi, parce qu'on parle de cela maintenant. Et ça relève ou ça ramène le débat sur l'allégeance quand on prête allégeance à la reine. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que c'est pas évident qu'on doit modifier la Constitution pour s'en sortir. C'est pas évident sur un bord comme sur l'autre. Et soit dit en passant aussi, les députés prêtent pas juste serment en disant « je prête allégeance à la reine, Élisabeth ». Non, on dit aussi puis qu'on fait preuve de loyauté envers le peuple du Québec. Et de tenter d'enlever la question de la reine là-dedans, ça pourrait causer beaucoup, beaucoup de Dans le fond, ça serait chamboulé, toute cette affaire-là, parce que ça serait contesté, puis on se ramasserait devant le tribunal. Alors, ce que je lui disais, c'est l'autre option, c'est d'aller en renvoi, c'est-à-dire le gouvernement, à la limite, avec une décision de l'Assemblée nationale, pourrait demander aux tribunaux, « Hey, si on changeait ça, nous autres, là, puis on prête plus serment à la reine, ça serait-tu correct? » Ça se rendrait jusqu'en Cour suprême. Ça serait intéressant de voir le jugement de la Cour suprême en lien avec cela. Mais si on n'est plus obligé de prêter serment à la reine, ben je vois mal donc l'utilité que nos lois soient adoptées qu'une fois la sanction royale signée ou réalisée. Parce que vous savez, une fois qu'on a terminé l'étude d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, puis qu'on passe au vote, puis que le projet de loi, par exemple, est adopté, mais la loi n'est pas en vigueur, ça prend une sanction royale, et là, c'est le lieutenant-gouverneur, donc le représentant de la reine, le représentant de la gouverneure générale, qui appose la sanction royale en disant « Voici, la loi est maintenant effective. » Si on arrête de prêter serment à la reine, est-ce qu'on doit garder la sanction royale? Et là, j'arrive dans un autre débat intéressant. Regardez ce qui se passe au Nouveau-Brunswick. Où, suite à l'élection, c'était un gouvernement libéral qui est battu par un seul siège. Qui décide comment ça va gouverner tout cela? C'est à qui le job de dire « OK, je demande à qui de former un gouvernement? » Est-ce que ce sont les conservateurs avec un siège de majorité? Est-ce que ce sont les libéraux qui sont capables de faire une coalition puis maintiennent le pouvoir? Alors, il y a quelqu'un qui doit faire ce rôle-là. Alors, si on abolit le lieutenant-gouverneur, qui va faire ça? Un juge? Vraiment? Peut-être. Mais c'est des questions importantes à se poser. Alors, Québec solidaire a fait un show de boucan et ça nous pose la question maintenant. Est-ce qu'on devrait aller dans cette veine-là puis réfléchir à la question d'enlever la question de l'obligation de prêter allégeance à la reine Élisabeth? Parmi l'ensemble des dossiers au Québec, là, moi, là, je suis pas sûr que c'est le dossier numéro un.